Que la grâce de notre Seigneur vous soit accordée. Amen. La parole de ce matin vient de l'épître de Paul aux Colossiens. Nous lisons au chapitre 4. Nous avons une longue lecture du verset 7 au verset 18. Colossiens 4, verset 7 au verset 18. Je lis au nom de Jésus. Tychique, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est de vôtre. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue. Ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justice, vous salue aussi. Il sort du nombre de circoncis et le seul qui a travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui a été pour moi une consolation. Epaphra, qui est de vôtre, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait, pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Demas. Saluez le frère qui sont à Laodicée, et Niphas, et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. Amen. C'est ça la parole du Seigneur de ce matin. Et aujourd'hui a été baptisé un dimanche de la santé pour la guérison de tous. Une guérison holistique. Comprenez la guérison comme le bien-être physique, mental, social, spirituel que nous cherchons dans cette paroisse. Lorsque vous lisez l'épître aux Colossiens, vous remarquez que Paul a largement accordé à Jésus-Christ une place éminente en le présentant comme le seul capable de résoudre tous les problèmes qui se passent dans l'Église. Dans l'Église naissante comme celle de Colosse. Le seul. La personne de Jésus est la parfaite représentation de Dieu. Si vous passez seulement 4 chapitres, le chef de l'Église, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, la seule source d'inspiration, le seul modèle de la véritable vie chrétienne. En Christ, nous avons tout pleinement, car il est l'origine de tout. la substance même de toutes choses. C'est ça Jésus dans cet épître. Mais alors, lorsque vous arrivez vers la fin, les versets que nous venons de lire à la fin, on passe un peu vers autre chose. Vous avez l'impression qu'il s'agit des relations entre les hommes. Parce que ce que nous avons lu, ce sont des salutations. N'est-ce pas? Saluez-t-elle, dites-t-elle, faites ceci. En fait, quelqu'un peut lire ce verset, ça a beaucoup d'intérêt, et penser que ça ne concerne. En fait, à quoi ça, c'est la parole de Dieu? Je vous ai entendu dire Amen. Saluez Epaphra, Amen. Saluez Marc, Amen. À quoi déjà cela peut vous bénir? Mais c'est ici que se cache le secret réel de ce que nous cherchons, le bien-être, nos relations entre nous. C'est là que ça se cache dans le verset que nous avons lu. Et vous vous rappelez, vous qui avez été ici dimanche passé, que le pasteur a longuement parlé lorsqu'il a saigné sur la Sainte Seine de nos relations. La relation entre nous et notre Seigneur Jésus-Christ et nos relations interhumaines autour de la table. Cette table était bien chargée le dimanche passé. Sans ces relations, on ne peut pas vivre l'Évangile. Il est impossible de vivre l'Évangile sans ces relations. C'est pourquoi aujourd'hui, donc, nous parlons de trois éléments. Nous parlons des relations interhumaines entre les hommes et les femmes. Nous parlons en deuxième lieu de notre relation avec Dieu qui directement nous amène à la relation avec les hommes. Il est impossible de vivre la relation avec Dieu sans relation avec les hommes. Et puis, troisièmement, nous parlerons de la relation entre églises. Trois relations. Relation interhumaine, relation homme-Dieu, relation entre églises. Alors, commençons la relation interhumaine. Et nous avons lu et remarqué que la parole de Dieu est véhiculée par les relations. Ça s'exprime par des salutations. Paul salue Epaphra, parle de Marc, d'Aristarque, de Demas, de Luc, de Justice, de Nepas, d'Archippe. C'est une grande équipe. Les Congolais appelleraient ça un brassage d'amitié. Il s'agit de brassage spirituel des amis de Dieu qui vivent ensemble, qui transforment la parole de Dieu en action, qui sont liés par une corde d'amour. Nous avons longuement parlé de l'amour la semaine du baptême. Et donc, sans Jésus, sans action divine, les membres de l'Église, surtout l'Église universelle, ne se seraient pas connus et ne se seraient pas rencontrés. Je parle de l'Église universelle dont nous venons de parler dans notre credo. D'ailleurs, nous ne les connaissons pas. Qui connaît les membres de l'Église qui sont en France? Et même au Rwanda, ici à côté. Et même au Burundi, là derrière. Sans action divine, sans la présence de Jésus, on ne se serait pas rencontré ni connu. Bon, et même si nous revenons dans une église locale, nous sommes ici autour de Jésus. Je crois que sans action divine, je n'allais pas connaître Matéab. Je ne sais même pas où il est né. Bon, je connais son père, mais pas son grand-père. Donc, sans action divine, nous sommes tellement séparés dans l'Église universelle par nos langues, par nos tribus, par nos races, par nos expériences, par nos nationalités, par nos statuts sociaux, par nos caractères. Nous n'avons pas le même caractère. Hein? Ouais. Si Jésus n'était pas au milieu de nous, on n'allait pas se rencontrer autour d'une table. Alors ce texte nous montre déjà la première image, c'est que des côtés il y a des Juifs et de l'autre côté il y a des Grecs. Dans ce texte, les Juifs dont il est question ici, c'est Aristarque, Marc, les cousins de Barnabas, on a ajouté ça, et Jésus appelé Justice. Et puis les Grecs, c'est Epaphra, Luc et Demas. Vous-même, vous savez que les Juifs ne peuvent pas se rencontrer avec les non-Juifs. Ils ne peuvent pas manger ensemble. Ils sont ici parce qu'au milieu d'eux, ils peuvent tisser des relations interhumaines parce qu'ils sont autour de Jésus. Et c'est ça donc la première caractéristique de ces relations interhumaines. Si ces relations se tissent en dehors de Jésus, ça n'arrivera pas. Tous ces hommes avec différentes nationalités, différentes professions, différentes origines, différentes expériences, se trouvent dans une relation fraternelle. Ils font des voyages ensemble, ils écrivent des lettres ensemble, ils prient ensemble. Ils évangélisent ensemble, tout simplement parce qu'au milieu d'eux se trouve celui qu'on appelle Jésus. C'est ça l'élément important. Si nous voulons avoir de bonnes relations interhumaines et avoir une église à bonne santé. Mais maintenant, je vais vous présenter trois images qui vont vous amener une certaine confusion. Je vais vous présenter l'image de Jean-Marc. Je vais vous présenter l'image de Demas. Et je vais vous présenter l'image d'Onésime dans les relations interhumaines. Jean-Marc, c'est l'homme qui a créé étiraillement entre deux leaders, Paul et Barnabas. Ils étaient en bonne relation. Et puis, quelqu'un, on ne sait pas si c'est pour des raisons de lâcheté ou de timidité, les a abandonnés. Et alors Paul refuse qu'on les prenne. Et Barnabas veut qu'on les prenne. Et alors les relations se font comment? Ça c'est rond. Ça signifie que vous pouvez bien tisser des relations jusqu'au jour où Jean-Marc n'est pas encore là. Si Jean-Marc se réveille au milieu de vous, attention, les relations peuvent se rompre. Mais alors, le texte que nous avons lu nous présente une autre image que, malgré cette situation dans le passé, Paul parle positivement de Jean-Marc. C'est lui-là qui était à la base du désaccord. Ici, Paul l'appelle son fidèle et inébranlable compagnon, jusqu'à la fin de sa vie. Et il en parle sans amertume. Le passé est passé. Le passé est effacé. Il le recommande même aux églises et demande que les gens le reçoivent avec dignité. Cela veut dire que l'église, c'est parfois un endroit où on trouve des ennemis réconciliés qui vivent ensemble. S'ils racontent leur histoire, vous allez comprendre qu'ils vivent ensemble parce qu'ils ont été réconciliés. Et l'église Gomaville a besoin de gens comme Paul, qui, malgré les désaccords, peuvent arriver au niveau de pardonner et d'oublier, et de commencer à parler positivement de quelqu'un, jusqu'à le recommander. C'est-à-dire, bon, mina va tout mis à fulani, mais Un jour, il a été, dans tout ce que nous lisons à Colossiens, Paul ne rappelle pas cette histoire. Il dit, je vous recommande Jean-Marc, recevez-le dignement. Ça se rappelait de cette histoire du passé. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église, des gens qui peuvent pardonner et oublier. Alors vient un Demas. Demas est dans le groupe maintenant. Mais si vous lisez à 2 Timothée, chapitre 4, le verset 10, Demas va quitter Paul. Bon, maintenant que ça s'écrit, il est avec Paul. Mais à 2 Timothée, chapitre 4, verset 10, il est déjà sorti. Il est parti. Ça signifie quoi? Ça signifie que peut-être aujourd'hui vous connaissez Jean-Marc. C'est lui qui était parti et il est revenu. Ou bien celui qui est parti n'est pas encore revenu. Mais vous ne connaissez pas Demas. Demas, c'est celui qui est au milieu de nous. Mais ne soyez pas étonnés, deux semaines après, on vous apprend qu'il est parti. Ce sont les Demas. Ils peuvent être au milieu de nous aujourd'hui. Et donc, dans une église locale, c'est ça la situation. On trouve un endroit où vous pouvez avoir des joies, vous pouvez avoir des faiblesses, vous pouvez avoir des grandeurs, vous pouvez avoir des découragements et des encouragements. Ne soyez pas scandalisés lorsque vous verrez des masses partir. Et s'y vend l'église locale. J'ai suivi quelque part une émission qu'on appelle « Et s'y vend ma cité ». Alors, et s'y vend l'église. Vous trouverez ceux qui sont partis, qui sont revenus. Mais ne soyez pas scandalisés si la semaine prochaine ou des mois après, vous y trouvez dans cette paroisse un Demas qui part. Ainsi va l'église locale. Pas l'église universelle, mais ainsi va l'église locale. C'est ça la deuxième image que nous trouvons dans ce texte. La troisième image, c'est celle de Onésime. On l'appelle Onésime l'esclave. Mais normalement, son nom, c'est Onésime le voleur. C'est ça. Mais on est déjà à l'église, on ne peut plus dire Onésime le voleur. C'est Onésime l'esclave. Ça lui donne mieux de dignité quand on dit Onésime l'esclave. Mais c'est Onésime le voleur. Il a volé les biens de son maître. Et s'il est ici, il est dans l'église, dans ce groupe, par grâce. Bon, comme tout le monde ici, nous sommes aussi à l'église par grâce. Il est revenu à cause de la grande sagesse de Paul, qui a pu réconcilier les voleurs avec son maître. Et donc, les relations interhumaines autour de Jésus ont changé. Alors, Onésime n'est plus l'esclave. Onésime se tient devant Philémon comme un frère. Je ne sais pas si vous sentez ces relations. Voilà comment les relations changent lorsque nous venons autour de Jésus. On peut trouver les Jean-Marc, les Demas, les Onésimes. On peut trouver les esclaves avec leur maître. Et les relations ont déjà totalement changé. Si et seulement si Jésus-Christ est au milieu d'eux. Cette paroisse a besoin effectivement de personnes très sages comme Paul, qui a dans sa sagesse, conduit par le Saint-Esprit, pu amener l'esclave à se tenir devant le maître et dire « Bonjour frère en Jésus ». Malgré nos différences, les relations interhumaines que nous tissons autour de Jésus nous apportent le bien-être. Et donc, nous avons besoin de ces bonnes relations interhumaines pour construire Gomaville. Le deuxième élément, ce sont les relations avec Dieu. Et je vous ai dit qu'il est directement difficile de parler de relations avec Dieu sans parler de relations avec les hommes. Et d'ailleurs, ça se remarque, ces gens que nous avons cités dans ce texte, ce sont des serviteurs de Dieu et des hommes. à la fois. Écoutez ce qu'on parle de Tychique. On l'appelle bien-aimé frère, comme homme, mais fidèle ministre et compagnon de service dans le Seigneur. Il sert les hommes et Dieu. Voici ce qu'on a parlé, ce qu'on a dit en rapport d'Aristarque. On a dit, il s'est consacré au service de Paul dans sa captivité. Là, il sert l'homme. Hein? Mais qui, avec Marc et Justice, ont travaillé pour le royaume de Dieu et ont consolé l'apôtre dans son épreuve. Il sert à la fois Dieu et les hommes. Voici ce qu'on dit d'Epaphras. Serviteur de Jésus-Christ, qui, même s'il est loin, il se bat pour prier en faveur de l'Église. Il prie pour qui? Pour les hommes. Il ne prie pas pour Dieu. Mais en priant, il sert l'homme. En fait, on ne peut pas prier pour Dieu. Sauf que je connais l'histoire d'une personne, je crois qu'il n'était pas encore affermi, il pensait qu'on pouvait prier pour Dieu. Il est entré dans un lieu d'intercession et il a suivi les sujets de prière. Prions pour la guerre, prions pour ceci, prions. Il a pensé que c'est trop. Alors quand c'est arrivé son niveau de dire c'est le sujet de prière, voici ce qu'il a dit. Prions d'abord pour Dieu, pour qu'il soit à mesure de résoudre ses problèmes, c'est tellement trop. On ne prie pas pour Dieu, il a toute la capacité. Donc ici, Epaphras prie pour les hommes. Il sert les hommes et il sert Dieu. Vous pouvez clairement le lire au chapitre, au verset 12. Epaphras qui est de votre, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait, pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de l'Odyssée et pour ceux de Hierapolis. À chaque fois qu'on nous dit qu'on prie pour nous, on se sent à l'aise. Nous, les Congolais, quand vous appelez quelqu'un à l'extérieur du pays et que vous lui racontez ce qui se passe chez nous, qu'il dit « on prie pour vous, on vous cite chaque jour dans nos prières », vous vous sentez à l'aise. Je suis sûr que si Dieu ouvre les oreilles de quelqu'un ici et qu'il écoute toutes les prières qui montent au ciel chaque matin, la journée, le soir et la nuit, et qu'il trouve que dans chaque prière, on cite son nom, il va directement guérir de toutes ses maladies. Mais on ne peut pas écouter toutes ces prières et savoir qu'on nous cite. Mais c'est aussi mal si toute la journée, personne ne vous cite dans sa prière. Dans toute cette paroisse-ci, on ne peut pas vous citer dans la prière. C'est qu'il y a quand même un problème. Dans votre cellule, si on ne peut pas vous citer dans la prière. Dans votre famille, si on ne peut pas citer papa et maman dans la prière. C'est que c'est quoi là? Nous avons besoin des hommes et des femmes qui citent chacun de nous dans sa prière. Et le modèle de cette relation avec Dieu, on ne peut pas directement délier de la relation avec les hommes, c'est Epaphras. Il est éloigné, mais il cite. Et Paul dit, je suis témoin. Je crois que Paul s'étonnait toujours qu'à chaque fois qu'Epaphras va prier, il va citer Colinzo, il va citer Kenge, il va citer tel. Et il dit, ah, mais Epaphra, vraiment, c'est une personne qui est en prière et qui combat pour ça. Même s'il est trop éloigné. Alors, on cite Luc. Le médecin, en fait, on suppose qu'il soignait Paul qui avait des difficultés de santé, peut-être toute l'équipe. Je doute qu'un médecin puisse être en équipe sans s'occuper de la santé de ces gens-là. Mais Paul, c'est l'évangéliste et le pasteur de confiance, ici. À la fois, il sert les hommes et à la fois, il sert Dieu. Et alors, on cite Nymphas. Paul ne dit pas beaucoup de choses sur cet homme. Mais ce qui est particulier, c'est qu'au verset 15, il dit ceci. « Saluez les frères qui sont à Laodicée », là où il envoie la lettre. Et il dit « Nymphas ».
Ça signifie que si quelqu'un qui a déjà quitté cette paroisse, il est en Europe, il est aux États-Unis, s'il écrit au pasteur et dit « Saluez l'église de Gomaville », et puis il dit « Est-elle ?» Ça signifie que vous êtes une personne importante pour lui. Vous voyez, il le dissocie de toute l'église. « Saluez les frères qui sont à la Odyssée » et n'y passe. La particularité ici, c'est qu'il avait l'église dans sa maison. Donc, c'est une grande personnalité qui sert à la fois Dieu, qui sert les hommes à cause de ses relations avec Dieu et les hommes. Toutes ces personnes que nous avons énumérées ici, ce sont des grandes personnalités autour de Paul. Et la particularité, c'est que Paul, la grande personnalité de Paul, en prison, il n'a pas vécu l'isolement. Il n'a pas vécu la solitude. Il est en prison. Il a quelqu'un avec lui. Il a des personnes qui viennent lui rendre visite. Il y a des personnes qui viennent l'aider. Il y a des personnes qui viennent se soucier de lui. Malgré son statut élevé, il y a des personnes qui le côtoient. Or, généralement, il y a des gens qui, quand ce statut a changé, c'est fini. C'est difficile de les rencontrer encore. Mais ici, ce que nous avons lu, la parole nous dit que si vous dites que vous êtes proche de Dieu, ça signifie directement que vous êtes proche des hommes. Il est difficile que quelqu'un nous dise ici qu'il est proche de Dieu et on ne peut pas le rencontrer proche des hommes. C'est le modèle que Paul nous donne ici. Lorsque vous êtes obéissant à Dieu, donc proche de Dieu, ça signifie que vous devenez la solution aux hommes, donc proche des hommes. Alors, Gomaville a besoin de personnes proches de Dieu comme Paul. Proches de Dieu, mais autour d'eux, il n'y a pas un vide. Autour d'eux, il y a des personnes qui sont des témoins qu'il est réellement proche de Dieu. La relation avec Dieu nous amène directement dans la relation avec les hommes. C'est ça la deuxième leçon que nous pouvons tirer. Et si c'est ça, alors vous êtes la personne qui va nous faire de cette église une église où on peut trouver le bien-être. La dernière leçon, c'est la relation entre église et église qui se dégage à la fin de la lecture et qu'on peut lire en verset 16. Il est dit, « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte aussi qu'elle soit lue dans l'église de la Odyssée et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de la Odyssée. » Ça traduit la relation entre églises. En fait, ça montre que Paul a écrit deux lettres, plusieurs lettres. Une lettre aux Colossiens, une lettre à la Odyssée. Et alors pour Paul, les deux lettres se complètent. Ce qu'il a communiqué aux Colossiens convient aussi aux Laodicéens. C'est ça, n'est-ce pas? Et donc, la connaissance de Dieu, vous, Colossiens, ne vous sépare pas des relations avec l'église de Laodicée. Il doit y avoir la relation, la bonne relation entre les églises. Ça, c'est un principe divin qui nous appelle et nous protège contre l'orgueil. L'orgueil des églises, ça nous protège contre l'orgueil, ça nous oblige à l'unité entre églises. En fait, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas nous ne convenons pas d'être en relation avec une église rurale. Dans le service anglophone, j'ai pris Kibumba et Mororwa. Si Paul était vivant aujourd'hui, peut-être qu'il écrirait. Lorsque cette lettre aura été lue à Kibumba, faites tout pour qu'elle soit lue à Gomaville. Ou bien, lorsque cette lettre sera lue à la CEPAC, la source, ou chez les méthodistes de Virunga, faites tout qu'elle soit lue chez les baptistes à Gomaville. Je ne sais pas si les chrétiens qui me regardent de Gomaliville peuvent penser qu'une lettre adressée à Kibumba, aux analphabètes de Kibumba, qui ne connaissent pas leur nom, leur date de naissance. Dans la Bible, il y avait des gens qui ne connaissent pas même la main gauche et la main droite. Je crois qu'ils étaient des analphabètes. Jonas avait été envoyé aux personnes qui ne connaissent ni la main gauche ni la main droite. C'était des analphabètes. Pensez-vous qu'une lettre envoyée aux gens de Kibumba peut convenir pour les gens de Gomaville? Lorsque cette lettre sera lue à Kibumba, faites tout pour qu'elle soit lue à Gomaville. C'est une sagesse divine qui nous appelle contre l'orgueil. L'inspiration à Kibumba peut convenir à Gomaville. L'inspiration aux analphabètes peut convenir aux scolaires, à ceux qui ont étudié beaucoup, à ceux qui ont un statut élevé. L'inspiration à la CEPAC ou aux méthodistes peut convenir pour les baptistes. Alors il nous appelle à l'humilité, à l'unité. Si nous savons que ces gens ont déjà crié à Jésus-Christ, les gens de Kibumba peuvent nous faire une inspiration que nous n'avons pas ici. J'espère que certains d'entre vous se rappellent du témoignage du pasteur que vous connaissez. Il a fini encore une fois ses prédications de baptême, mais la fois passée, il était avec nous dans la veillée. Il a dit ceci. Suivez, il a dit ceci. Ils étaient en train de prier pour quelqu'un, pour renvoyer les démons. Ils ont fait premier jour, deuxième jour, les démons ne sont pas partis. Un pasteur à shérif, suivez bien, un pasteur à shérif est arrivé. Il a posé la question, où sont les pasteurs? On a dit, ils sont à l'étage là-bas. Ah, il est allé là-bas. Il est entré à shérif. Et quand il est entré, les démons sont partis. Il est venu du milieu rural. Et ce pasteur du milieu rural a dit, j'étais quand même étonné de voir que deux jours, les démons ne sont pas partis. Mais le pasteur à shérif, quand il est entré là-bas, les démons sont partis. Lorsque cette lettre sera lue à Kibumba, faites tout qu'elle soit aussi lue à Gomaville. Cette lettre aux Colossiens a été écrite ça fait 2000 ans, n'est-ce pas? Mais si vous lisez, ça nous défie aujourd'hui. Malgré notre science, malgré notre technologie, malgré nos bâtiments, les gens des Colossiens n'avaient pas tout cet arsenal de médias. Mais la lettre adressée aux Colossiens, si vous la lisez, à cet moment, vous direz, ah, peut-être que ça parle de moi. L'inspiration faite, ça fait 2000 ans. Ça nous concerne aujourd'hui. Frères et sœurs, avant l'enfer de cette année, la parole de Dieu nous demande d'interroger ces trois dimensions de relations, si nous voulons être en bonne santé spirituelle. Les relations inter-humaines dans cette paroisse et dans l'Église universelle. Tes relations avec Dieu qui directement doivent t'amener proche des humains. Si tu te sens proche de Dieu, éloigné des humains, ça c'est une fausse relation avec Dieu. La relation avec Dieu t'approche directement des hommes parce que tu dois servir et Dieu et les hommes. Et alors, troisièmement, la relation entre les églises. Ça nous appelle à l'humilité. Nous devons maintenir la relation avec les églises. Nous appartenons à l'Église universelle. Et donc, il n'y a pas là où Dieu ne peut pas envoyer son inspiration. L'inspiration de Dieu peut nous arriver parce qu'elle vient de Mororoa. Et ça nous arrive à Gomaville. C'est ça Dieu. L'inspiration de Dieu peut nous arriver parce que ça vient des méthodistes. C'est ça Dieu. Et donc la lettre adressée aux méthodistes peut s'adresser aux baptistes aujourd'hui. Je prie que le Seigneur donne à chacun de bonnes relations interhumaines Je prie que le Seigneur donne à chacun de bonnes relations avec Dieu. Et je prie pour Goma Ville, pour que nous puissions avoir une bonne relation entre églises. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.